Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vous souhaite la bienvenue. Nous allons ensemble entreprendre un petit voyage dans un pays étrange, celui de la santé, de la maladie dans lequel nous vivons, avec des problèmes que nous côtoyons tous les jours. Et j'aimerais ce soir apporter un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'idées qui, pour certains, seront connues, pour d'autres, seront nouvelles. Je précise d'emblée dans quelle optique ceci vous est présenté. Il ne s'agit pas de vous convaincre ni de vous proposer un système de pensée, un dogme auquel vous deviez adhérer, mais bien plutôt d'émettre un certain nombre de considérations, de propos, dans lesquels vous vous sentirez libre de prendre ce qui peut vous convenir et de laisser passer le reste. Parce qu'il est évident que dans un cours de 2 heures, il faut condenser beaucoup d'éléments, donner des raccourcis, donner des résumés parfois un peu brusques, parfois un peu taillés à l'hache. Et je vous invite donc à écouter ce qui vous est proposé sans vous sentir pris dans un étau en quelque sorte, mais en acceptant des suggestions, des idées qui passent et en captant là-dedans ce qui peut vous être utile. Car, comme le disait il y a déjà bien longtemps Bouddha, la vérité, c'est ce qui est utile. Et c'est une très belle définition qui montre que nous avons chacun nos vérités à nous, nous avons chacun les choses auxquelles nous croyons, les choses auxquelles nous ne croyons pas, et que finalement le but d'un cours comme celui de ce soir n'est pas de vous proposer mon système, mais de vous amener un certain nombre d'éléments qui peuvent peut-être vous inciter à voir quelques éléments de votre vie quotidienne d'une autre façon, voire même à tenter quelques expériences dans le domaine de la santé et dans le domaine de la prise en charge de votre équilibre personnel. Pour commencer, nous allons voir quelques images qui vont introduire notre sujet et puis nous reprendrons les points que les images n'auront fait qu'effleurer ensuite. Cette image illustre le fait que si dans notre société on se préoccupe beaucoup de sa carrière, de ce que l'on fait, de réussir socialement et professionnellement, bien souvent, c'est au détriment de notre équilibre de santé. Et nous sommes dans une société de plus en plus malade, dans laquelle on consomme toujours plus de médicaments, 400 tonnes de tranquillisants en France chaque année, etc. Et comme le malade imaginaire de Molière, nous vivons dans un monde entouré de produits qui ont pour but de nous aider à tenir le coup, tant bien que mal. Le résultat, c'est que nous avons un peu perdu le paradis d'antan et que dans les boîtes de conserve, nous ne trouvons pas ce qu'il faut pour un Adam et Ève en bonne forme. Les habitudes de notre vie économique ont entraîné peu à peu un certain nombre de systèmes et de modes de vie qui ont des répercussions importantes sur l'état de santé des populations occidentales. On inflige aux animaux toutes sortes de traitements impressionnants et après on les mange. Une de ces petites listes pour faire frémir, si j'ose dire, c'est la liste des antibiotiques utilisés dans l'industrie alimentaire. L'on voit par exemple que beaucoup des aliments consommés couramment contiennent de la pénicilline. Quand on sait que beaucoup de gens sont allergiques à la pénicilline, on se rend compte de ce que ceci peut donner. Et puis, nous côtoyons des substances, bien souvent sans nous en rendre compte, qui ont des effets nocifs sur notre organisme. Ainsi, peu de gens réalisent que dans un kilo de bœuf cuit au grill, le bœuf que vous cuisez dans les montagnes du Jura le dimanche, vous avez la quantité de benzopyrène, qui est un cancérigène important, de 600 cigarettes. Nous avons pris l'habitude de vivre vite, de vivre stressé, de manger rapidement. Nous savons que nous mangeons trop et ce n'est pas par hasard que le dessinateur a mis sur cette boîte de chocolat fin au palais des douleurs. En effet, ces habitudes alimentaires de produits raffinés, d'excès de produits animaux, comme nous le verrons tout à l'heure, entraînent des répercussions sur notre bien-être. Et ce que nous avons perdu dans les boîtes de conserve et les habitudes de notre société, eh bien, c'est notre santé. Nous avons pris l'habitude de vivre tellement vite qu'en quelque sorte nous sommes propulsés en dehors de notre corps n'arrive plus à suivre le rythme que nous voulons lui imposer, comme ce skieur qui va plus vite que ses skis. Le résultat, eh bien, c'est que les salles d'attente des médecins sont remplies, que la consommation de produits pharmaceutiques et de frais médico-pharmaceutiques augmente chaque année dans des proportions telles que si l'on continue à ce rythme, eh bien, peu après l'an 2000, le produit national brut tout entier de la Suisse passera à ce qu'on appelle d'une façon assez humoristique le coût de la santé, mais qui est en fait le coût de la maladie. En effet, le produit national brut est déjà absorbé à près de 15% par tous ces frais qui viennent du fait que les gens sont malades. Et dans cette société qui s'est médicalisée à outrance, la médecine a une position de guerrière. Elle lutte contre les maladies. Depuis le début de ce siècle, la médecine a développé des moyens toujours plus puissants de lutter contre les maladies, avec ce concept que la santé pourra régner lorsque l'on aura tué toutes les maladies. Il s'agit donc d'intensifier le combat et l'on voit depuis de très nombreuses années les appels se succéder en disant « la victoire est pour bientôt, encore un effort ». Et c'est avec ce genre d'argument que l'on récolte des fonds pour promouvoir la recherche. Malheureusement, les résultats se font attendre et bien que depuis un certain nombre d'années, on annonce que dans un domaine comme celui du cancer, on va pouvoir, grâce à tous les travaux faits dans ce domaine, 5 milliards de dollars consacrés à la recherche sur le cancer aux États-Unis chaque année, eh bien, malgré cela, la mortalité par cancer augmente dans tous les pays industrialisés d'une façon vertigineuse et l'on meurt beaucoup de ce genre d'affection. Pour donner une note plus gaie, l'une des raisons, nous en reparlerons, des problèmes de santé et de maladies connues par notre société est le changement des habitudes alimentaires. Lorsque l'on mange des aliments simples, des aliments végétaux, eh bien, on élimine bien. Inversement, lorsque l'alimentation est trop riche, trop grasse, trop nourrissante en produits raffinés, on a de la peine à éliminer. En Suisse, il y a 25% de la population à peu près qui meurt à cause du cancer. Et il y a à peu près 50% de la population qui meurt de maladies cardiovasculaires. Et il est impressionnant de se rendre compte que 75% des gens, donc les trois quarts des gens qui meurent en Suisse, meurent d'affections qui sont directement dues à des habitudes de vie et par conséquent parfaitement évitables. Et ce graphique résume les principaux éléments physique, nous verrons qu'il y a aussi d'autres raisons à ces problèmes que les raisons strictement physiques, mais dans les habitudes de vie, eh bien, on connaît maintenant très précisément les causes du cancer. Bien sûr que l'on ne connaît pas tous les détails des mécanismes intracellulaires par lesquels le cancer se déclenche et la recherche avance dans ce domaine-là. Mais les causes au niveau du mode de vie sont parfaitement connues, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque, qui sont responsables tant des cancers que des maladies cardiovasculaires. Le tabac, il est inutile d'en parler, tout le monde le sait. Tout le monde connaît maintenant la relation entre l'excès de cigarettes et la mortalité par ces affections. Chaque année dans le monde, il y a l'équivalent d'une ville d'un million de personnes qui est enlevée de la surface terrestre par la mortalité due au tabac. Si ceci se passait en un jour, eh bien, les manchettes de journaux seraient rempli de cet événement extraordinaire, mais ceci se fait à bas bruit et d'une façon à laquelle on s'est tellement habitué que l'on ne trouve plus ça extraordinaire. Et nous voyons tous les jours des gens se promener avec une chambre à gaz individuelle dans laquelle ils meurent à petit feu. C'est évidemment moins impressionnant que les chambres à gaz des nazis de la dernière guerre, mais c'est malheureusement tout aussi efficace. Dans les facteurs moins connus que le tabac au niveau des affections cancéreuses, il y a l'excès de consommation de viande. Et ceci est un phénomène moins perçu en général dans le grand public. La viande et les produits animaux, c'est-à-dire les produits laitiers, les œufs, etc., sont des aliments qui sont très riches en graisses et ces graisses entraînent des surcharges dans notre organisme, l'intoxiquent peu à peu, encrassent nos artères et dérèglent nos mécanismes de lutte anti-cancer, nous le verrons tout à l'heure. Et si l'on se rend compte que quelqu'un qui ne mange que peu de viande et qui ne fume pas ou qui fume peu a tout d'un coup la moitié moins de chances d'avoir un cancer que quelqu'un d'autre, eh bien, on mesure à quel point il y a du travail à faire au niveau de l'information et de l'éducation du grand public sur ces problèmes. Les autres facteurs sont moins importants. Ce sont tous les excitants, 15%, le manque d'exercice et l'obésité. Mais vous voyez que la plupart de ces facteurs sont des choses qui pourraient parfaitement être modifiées. Il ne s'agit pas de croire qu'il faille renoncer à tous ces éléments, mais simplement de comprendre que trop c'est trop et qu'une consommation trop abondante de tabac, de viande, de produits animaux entraîne des difficultés dans notre corps. Ces végétaux sont les aliments que la nature a prévus pour la base même du fonctionnement du corps humain. Et ils ont un rôle, c'est ce que cette image souligne, de nettoyage de notre corps. Les fruits, les légumes sont des aliments qui font du ramonage. Ils nettoient notre tube digestif grâce à leurs fibres végétales et leur rôle pour maintenir sa santé est essentiel. En effet, si nous avons un poil qui tire mal, un métabolisme ralenti, un organisme un peu encrassé, eh bien, ce n'est pas en prenant des excitants le matin et des somnifères le soir que nous résoudrons le problème, mais bien plutôt en ramonnant un peu la cheminée. Et ce ramonnage, c'est ce que font les végétaux. Si les aliments sont déséquilibrés, on voit apparaître comme conséquence un métabolisme ralenti, c'est ces fameux symptômes de se réveiller le matin avec de la peine à se mettre en route tant qu'on n'a pas absorbé un café ou un verre de schnapps. On a de la peine à éliminer, c'est la constipation que nous avons vue tout à l'heure, et qui est essentiellement liée dans nos pays à l'excès de produits raffinés et de produits animaux. Lorsqu'on sait par exemple que dans des études faites au Mexique et aux États-Unis, on trouve chez entre 90 et 99% des cancéreux une histoire de constipation chronique durant donc depuis des années, eh bien on mesure que ces phénomènes d'élimination sont capitales dans cette affection. Et puis il y a aussi tous ces symptômes, les symptômes mentaux, les symptômes émotionnels, les symptômes physiques, qui nous indiquent que quelque chose ne va pas dans notre corps. Et si au lieu d'écouter ces symptômes et d'en tenir compte, nous les faisons taire à coup de stimulation ou de médicaments, eh bien peu à peu, nous allons voir apparaître des maladies toujours plus importantes jusqu'au cancer. Un exemple, le rôle du sucre. Lorsque nous prenons du sucre raffiné, dans notre sang, la glycémie, c'est donc la teneur du sang en sucre, augmente brusquement et nous avons un moment d'excitation, voire même d'énervement, d'irritabilité. Et puis 2 heures après, c'est le fameux coup de pompe, le moment où nous sommes épuisés, nous n'avons qu'une envie, c'est de prendre une cigarette, un café ou un autre stimulant. Par contre, si nous prenons des sucres complexes, tels que nous les trouvons dans les végétaux, dans les fruits, dans les légumes, eh bien, notre glycémie va être beaucoup plus stable et notre énergie va être beaucoup plus fluide. Dans notre société, les habitudes alimentaires nous entraînent à manger beaucoup plus que nous n'avons besoin. Et c'est ainsi que cette dame qui a l'impression de manger comme un oiseau ne se rend pas compte que les oiseaux dévorent des quantités énormes de nourriture. Ce graphique montre la quantité de graisse absorbée dans différents pays du monde en fonction de la mortalité par cancer du sein. Et vous voyez une chose extrêmement intéressante, à savoir que dans les pays où l'on consomme peu de graisse, et c'est essentiellement peu de produits animaux, c'est-à-dire peu de viande, peu de lait, peu de beurre, etc., comme le Japon, eh bien il y a peu de mortalité par cancer du sein. Dans les pays comme les USA, tout en haut à droite, où l'on consomme énormément de produits animaux, l'alimentation est très riche en graisse, eh bien la mortalité par cancer du sein est extrêmement élevée. Et ce graphique à lui seul vous donne une information capitale sur ce sujet. Parce qu'en visualisant ceci et en comprenant ce que cela veut dire, vous avez une des clés de la prévention du cancer du sein. Une autre illustration qui n'est pas prise dans le domaine du cancer, mais la courbe serait probablement la même. On voit qu'en Norvège, la consommation de graisse sous forme de beurre, de lait, de fromage et d'œufs a tout d'un coup chuté pendant la guerre, tout simplement parce qu'au lieu de manger des produits animaux, on s'est mis à manger des céréales. Et cette consommation jusqu'en 1944 a diminué, puis en 1944, quand la guerre s'est terminée, les gens ont recommencé à manger des graisses animales, et vous voyez la courbe de consommation de graisse qui remonte. Eh bien, il est frappant de voir que la mortalité a suivi exactement la même courbe. Pendant la guerre, les Norvégiens mouraient moins en raison du fait que leur alimentation était moins riche. Il ne s'agit pas dans le domaine alimentaire de croire qu'il faille renoncer à tous les plaisirs que nous avons, à toutes les habitudes, mais de comprendre ce principe de l'équilibre entre l'apport et l'élimination. Si notre élimination se fait bien, nous pouvons supporter un certain nombre de produits, de viande, de beurre, de lait, de cigarettes, de café. Mais si nous n'éliminons pas suffisamment, eh bien, nous nous en apercevons vite parce que nous nous sentons moins bien. Et si ce phénomène dure et dure et dure encore au fil des années, peu à peu, nous nous intoxiquons. Et cette intoxication va donner des dérèglements dans nos systèmes physiologiques. Une illustration qui est tirée d'un livre que nous avons édité sur la question de la nourriture, de l'alimentation, mais qui peut être appliquée au domaine du cancer comme à celui de l'allergie. Vous voyez, la résistance à gauche, c'est ce petit monsieur très solide, c'est la résistance de l'organisme, c'est notre vitalité. Puis à droite, il y a un allergène, mais on pourrait dire aussi que c'est un petit cancer. Eh bien, on voit que tant que le cancer est petit et que la résistance est forte, il n'y a pas de problème. Par contre, si tout d'un coup la résistance vacille, si notre système de défense flageole, eh bien, tout d'un coup, l'allergie ou le cancer vont prendre une importance de plus en plus grande et menacer notre vie. En modifiant notre façon de vivre, nous allons pouvoir remettre en quelque sorte l'équilibre dans l'autre sens. Nous avons été éduqués dans notre société, nous en reparlerons tout à l'heure, à nous plier à des normes, à faire comme tout le monde. Et le résultat de ce type d'éducation, eh bien, c'est que tout d'un coup, nous nous écroulons comme ce gardien de la reine qui ne supporte plus la position antinaturelle et la chaleur. Nous avons pris l'habitude de porter des masques, de jouer à toutes sortes de jeux sociaux, mais bien souvent, nous avons perdu le contact avec nous-mêmes à travers ces habitudes. La vie en société nous apprend la dépendance, la maladie, mais en retrouvant le contact avec ce médecin qui est en nous, avec ses forces de régénération qui sont à l'intérieur de notre organisme, nous pouvons peu à peu faire notre chemin hors du monde des maladies, vers la santé et vers l'équilibre. Bien sûr que parfois il faut aller un peu à contre-courant des idées reçues, mais de cette façon, nous pourrons cesser d'être une victime impuissante devant ce genre d'affections qui viennent de l'intérieur de nous-mêmes, comme le cancer, et retrouver cet état de bien-être organique qui est celui du petit bébé sur le ventre de sa mère, qui est cet état dans lequel nous ne sommes plus coupés de la nature et nous ne sommes plus en lutte avec nous-mêmes. Quelques images pour vous montrer ce que nous faisons dans le cadre de la Fondation Soleil, je vais passer assez rapidement. À Schönbourg, près de Genève donc, nous avons dans cette maison une bibliothèque qui contient toutes sortes d'informations permettant à ceux qui le désirent de voir les moyens de santé qui existent, d'apprendre également à créer une nouvelle relation avec leur corps en étudiant leur anatomie à l'aide de livres et de ce mannequin démontable, en écoutant éventuellement des cassettes et en apprenant des techniques de détente. Nous avons également créé une librairie spécialisée dans tout ce qui concerne la santé, afin que les livres puissent devenir non plus des instruments de complications, mais des agents de simplification de notre mode de vie. Nous avons mis sur pied un bureau d'information santé dont le but est d'orienter les gens qui cherchent à faire quelque chose pour eux-mêmes vers des moyens, des techniques, des méthodes qui leur permettent de peu à peu apprendre à se prendre en charge et à développer leur équilibre personnel. Nous éditons également un certain nombre de livres sur tous les sujets en rapport avec la santé. Nous avons mis sur pied un jardin d'herbes pour que les ressources des plantes puissent être plus faciles à sentir, à admirer, à percevoir. C'est un lieu où le simple fait de se promener fait déjà du bien. On passe de l'odeur du thym à l'odeur de la citronnelle. Et l'on voit des fleurs et des abeilles. Et l'on retrouve cette vérité bien oubliée dans notre société, à savoir que c'est la nature qui est notre plus grand agent de rééquilibration. Nous avons la chance, bien que près du centre de la ville, d'avoir d'anciens vergers, un paysage de nature, avec même des moutons et des oies, ainsi que des abeilles. Dans cette maison, nous organisons des cours, des conférences, des séminaires pour montrer tous les moyens pouvant être utiles à l'apprentissage de la santé. Nous enseignons également la technique de la germination des graines et des jeunes pousses pour permettre d'apprendre à devenir un jardinier d'intérieur, c'est-à-dire à faire pousser chez soi toute l'année des aliments à haut pouvoir d'équilibration. Et nous enseignons aussi les techniques de jardinage naturel, car le contact avec la terre et le fait de respecter ses cycles représentent un autre livre, le livre de la nature, est constamment ouvert sous nos yeux pour nous apprendre les grandes lois de l'équilibre. En attachant beaucoup d'importance à l'art du compostage, qui est l'art de nourrir la terre d'une façon qui la régénère, afin de produire des fruits et des légumes qui ne soient pas seulement gros et lourds pour pouvoir être vendus, mais qui soient aussi qualitativement porteurs des substances dont nous avons besoin. Et dans cette maison, nous enseignons des techniques d'alimentation saine sous forme d'ateliers de nutrition, où l'on apprend à préparer des aliments d'une façon qui les respecte et qui conserve leur vitalité. On peut aussi manger des fleurs, comme les capucines. Et toute l'équipe, actuellement il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent dans le cadre de cette fondation, toute cette équipe a des points communs. Les gens viennent d'horizons très différents, ils travaillent dans des secteurs différents, mais tous ont un état d'esprit tolérant envers d'autres démarches que la leur. Tous progressent vers plus d'équilibre et de santé, mais sans chercher à imposer à d'autres leur démarche comme étant la seule, l'unique. Et cet esprit de tolérance permet l'humour et permet de faire des expériences avec légèreté, en sorte que la santé ne soit pas une prison comme elle est à Paris, mais qu'elle soit l'occasion de bien s'amuser. Et ainsi, peu à peu, de se diriger toujours plus hors des prisons obscures de la maladie vers la lumière, vers le soleil et vers une vie toujours plus épanouie. Après ces quelques éléments d'introduction, nous allons revenir à notre sujet d'une façon plus directe en considérant les quatre plans sur lesquels il y a des informations à comprendre pour percevoir ce qu'est un cancer, pourquoi il apparaît, ce que l'on peut faire pour l'éviter. J'ai schématisé sur ce petit dessin qui vous montre que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans l'art du dessin. Le corps physique, avec son centre dans la région de l'abdomen, le corps émotionnel, avec son centre dans la région du cœur, et le corps mental, avec son centre dans la région de la tête. Le corps spirituel est en lui l'ensemble de tout cela. Et nous verrons que le cancer a des raisons physiques, des raisons émotionnelles, des raisons mentales et des raisons spirituelles. Et que si nous voulons comprendre ce problème et agir intelligemment, il faut agir sur les trois plans. On ne peut pas réduire l'être humain à seulement un corps physique. Et c'est certainement un des grands drames de notre époque que la médecine soit devenue tellement matérialiste, tellement orientée seulement vers un corps physique, et que la dimension émotionnelle, mentale et spirituelle ait été tellement oubliée. Et nous verrons à quel point, dans le domaine du cancer, les conséquences en sont impressionnantes. À quoi sert, dans un organisme, un cancer? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, un corps qui fonctionne bien, qui nous permet d'aller faire du ski ou de la varappe ou de la planche à voile, tout d'un coup, un jour, se met à fabriquer un cancer? Il est frappant de voir que cette question est une question clé, question fondamentale, mais à laquelle on répond en général le plus souvent par une sorte d'esquive en disant « c'est quelque chose de tout à fait anormal, c'est un ennemi qui nous tombe sur le dos, tout d'un coup, notre organisme devient notre propre ennemi ». Et cette conception, qui est celle la plus répandue dans les milieux scientifiques et médicaux, a été très bien résumée par le professeur Hamburger, qui est un des mandarins les plus impressionnants de la médecine française, qui a écrit de nombreux livres sur les problèmes de maladie, et qui dit ceci en apostrophant les amoureux de la nature, qu'ils l'aperçoivent, donc il parle de la nature telle qu'elle est, implacable, insensible, d'une indicible cruauté, féroce, impitoyable pour tout ce que nous aimons, organisation sans merci qui heurte de toutes parts les plus généreux désirs de l'âme humaine. Voilà ce qu'aujourd'hui la biologie et la médecine peuvent faire éclater aux yeux de tous. Cette conception de la nature qui est notre ennemi, qui nous veut du mal, qui nous fabrique des cancers alors que nous avons envie d'être en bonne santé, c'est la base même de cette idée d'une médecine guerrière qui va lutter contre les maladies. Alors que Claude Bernard disait un siècle plus tôt, tous les mécanismes vitaux, quelque variés qu'ils soient, n'ont toujours qu'un but, celui de maintenir l'unité des conditions de vie dans le milieu intérieur. C'est-à-dire qu'il avait compris, en grand physiologiste qu'il était, que tout ce qui se passe dans l'organisme est toujours profondément intelligent. Et nous n'avons qu'à réfléchir à ce qu'est un organisme humain pour voir avec évidence que notre organisme n'est pas un imbécile. Il fonctionne d'une façon qui cherche toujours à maintenir la vie le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles.